13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. L'actualité ce matin, vous venez de l'entendre dans le journal, c'est la disparition du compositeur Michel Legrand. À la fin de l'émission, Thierry Geffrotin nous fera revivre les ultimes répétitions du maestro quand il dirigeait Podane à Marigny. Mais d'abord, plongée exceptionnelle au cœur du nord de la Syrie, avec notre envoyé spécial Gwendoline de Bono, et les Kurdes qui redoutent le départ des Américains alors que la lutte contre Daesh n'est pas finie. Les radars ciblent des gilets jaunes dégradés et un constat fait près de Belfort. On roule plus vite car la peur de l'amende n'existe plus. Nous partirons en maraude dans les rues de Paris auprès des SDF avec Jean-Gabriel Bourgeois. Salomé Legrand nous fera découvrir le monde des agents secrets en prison. Reportage exceptionnel à Strasbourg. Et puis nous nous glisserons dans les coulisses de la vente aux enchères des robes dessinées par Yves Saint-Laurent pour Catherine Deneuve. Somptueux. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1. Tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Plongée exceptionnelle au cœur du nord de la Syrie pour ouvrir Tout terrain. Plongée exceptionnelle à un moment clé de la lutte contre Daesh. Il y a un mois, en effet, Donald Trump annonçait que les États-Unis allaient quitter la région. Une décision sévèrement critiquée par la France, un allié se doit d'être fiable, commentait à l'époque Emmanuel Macron. Une décision vécue aussi comme une véritable trahison par les Kurdes qui contrôlent cette partie de la Syrie, qui ont été en première ligne pour lutter contre Daesh. Bonjour Gwendoline de Bono.
Bonjour.
Grand reporter à Europe 1, cela fait des mois, Gwendoline, que vous nous avez fait vivre les moments clés de l'offensive de la coalition internationale pour reprendre les territoires contrôlés par Daesh, comme Mossoul ou Raqqa. Cela fait une semaine que vous êtes dans le nord de la Syrie. Déjà, Gwendoline, avant qu'on écoute votre reportage, vous étiez où, dans quelle zone précisément cette semaine et qu'en est-il des combats ?
Alors, en fait, je me trouvais dans l'est de la Syrie, la région de Deir ez-Zor, qui est sur les bords de l'Euphrate, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Irak. Et là-bas, le califat de l'État islamique ne tient plus qu'à deux villages. Les forces démocratiques syriennes, hein, qui est en fait l'alliance de combattants kurdes et arabes, avancent vite entre les palmiers et les maisons qui bordent le fleuve. Hier, ils se sont emparés d'une grande partie d'un de ces deux villages. Alors là-bas, on entend en permanence les avions de la coalition qui survolent la zone, qui frappent. Il y a des colonnes de fumée qui s'élèvent régulièrement dans le ciel. Les djihadistes, en majorité des Irakiens, ont réussi plusieurs contre-attaques ces derniers jours en encerclant cette alliance de combattants kurdes et arabes. Toutefois, nous a dit un commandant, on sent maintenant le désordre dans leur rang. S'il reste des chefs pour diriger les opérations, pour beaucoup de djihadistes, c'est désormais chacun pour soi. Certains se rendent pendant les combats, d'autres s'enfuient par le désert avec leur famille. Ces derniers jours, on a vu des milliers de femmes et d'enfants passer les lignes kurdes. Alors la nationalité de ces familles montre que beaucoup d'étrangers vivaient dans cette dernière poche de l'État islamique. Nous avons vu par exemple un combattant hollandais et sa femme britannique. Des Français et des Françaises se sont également rendus, ainsi que des dizaines de Russes. Pour l'État islamique, très clairement, la défaite territoriale est proche, mais il ne faut pas s'y tromper, ça les officiels disent. Leur idéologie est toujours bien ancrée dans la région et ils gardent la capacité de frapper, d'organiser des attentats dans le pays. D'ailleurs, il y a des attaques assez régulières sur les routes.
Alors, pour bien comprendre ce qui se joue dans la région, Gwendoline, on va écouter un extrait de votre reportage. C'était mercredi dans la matinale, dans la séquence Europe 1 va plus loin, avec Nikos Aliagas.
En annonçant le départ des soldats, le président américain a eu ces mots. La Syrie, ce n'est que du sable et des morts, nous partons. Une phrase qui blesse profondément les Kurdes ici parce que tous disent vivre dans l'incertitude maintenant. On achète le strict minimum, on fait des économies. Le secteur de la construction tourne au ralenti. Tout semble gelé en fait, en attendant de voir si le marteau ou l'enclume l'emporte, comme nous l'explique Azad, employé dans une télévision kurde.
Entre la Turquie qui menace de nous envahir et l'idée d'un retour du régime syrien, on vit dans la peur. C'est un désastre. Moi, par exemple, je travaille dans la télévision officielle de l'administration kurde. Donc la Turquie me considère comme un terroriste. Si les Turcs viennent, je serai traité comme un terroriste. Et si le régime revient, nous devrons servir dans l'armée. Et on ne sait pas ce qui arrive aux jeunes forcés de s'engager. Donc moi, je pense à quitter la région.
On entend l'inquiétude, Gwendoline, et c'est vrai que le nord de la Syrie est extrêmement instable aujourd'hui. C'est là que plusieurs milliers de djihadistes étrangers, dont plusieurs centaines de Français, sont toujours détenus par les Kurdes dans une zone grise de droit international.
Oui, désormais, l'administration kurde, qui estime à plus de 2000 le nombre d'étrangers entre ses mains, ne manque plus une occasion de marteler ce message aux pays étrangers. Reprenez vos ressortissants maintenant. Cette semaine, deux enfants de 9 et 11 ans, originaires des îles caribéennes de Trinidad et Tobago, ont été rendus à leur mère. Leur père les a kidnappés pour les emmener à Raqqa il y a 4 ans. Alors les caméras sont invitées à filmer leur départ vers leur pays. Et devant nous, le vice-ministre des Affaires étrangères commence son discours par ces mots.
Nous espérons faire passer ce message à tous les pays du monde. Dépêchez-vous, remplissez vos obligations humanitaires, reprenez vos ressortissants, leurs familles et les enfants de l'État islamique, parce que notre situation dans le nord de la Syrie est devenue insupportable. Nous sommes encerclés, nous sommes menacés par la Turquie qui chaque matin et chaque soir menace de nous envahir. C'est pour ça que nous répétons ce message aux pays étrangers, dépêchez-vous.
Pour l'instant, seuls la Russie, l'Indonésie, le Soudan et le Kazakhstan ont rapatrié leurs ressortissants. Selon une source sécuritaire, une Américaine est également rentrée aux États-Unis.
Voilà Gwendoline pour votre reportage qui a donc été diffusé mercredi sur l'antenne d'Europe 1. On entend bien à travers ce que vous nous dites le sentiment de trahison qu'ont les Kurdes. Pourquoi ils se sentent trahis, Gwendoline, au point d'ailleurs de dire qu'ils ne peuvent plus contrôler les djihadistes étrangers?
Je vous dis ce que me disait un commandant hier qui a participé à toutes les opérations militaires depuis 4 ans. Il disait: je me sens trahi par l'annonce de Trump. Je suis en colère. D'abord, il y a un mois, il faut comprendre que quand le président américain dit ça, il prend de court ses alliés. Et puis, pour les hommes qui se battent contre les djihadistes sur le terrain, eh bien, ils ont reçu la nouvelle en pleine bataille. Sur place, on voit toujours des soldats américains, mais d'ici quelques mois, ils partiront et les Kurdes seront dans une position extrêmement fragile. Ils en ont bien conscience. Ils ont conscience aussi que quelqu'un va venir combler ce vide. Par exemple, Abu Kamal, c'est une ville qui est située sur l'autre rive de l'Euphrate. C'est juste en face de la zone d'opération où il y a des combats. Eh bien, le régime syrien, les Iraniens et les Russes sont positionnés. Voilà, ça c'est la partie militaire. Et puis au niveau politique, l'administration kurde syrienne a engagé les discussions avec le régime via l'intermédiaire de la Russie. D'ailleurs, des pourparlers directs pourraient commencer d'ici peu. En fait, ce qui est essentiel pour les Kurdes, c'est de se protéger d'une potentielle invasion de la Turquie voisine qui veut prendre le contrôle des villages kurdes qui sont situés en fait tout le long de sa frontière. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Et c'est pour ça que les Kurdes appellent les pays étrangers à reprendre leurs ressortissants djihadistes et leurs familles le plus rapidement possible. C'est vrai que ce message, ils le martèlent en permanence. Et puis, c'est un moyen pour eux de rappeler ce qu'ils ont assumé, ce qu'ils assument toujours ici pour que l'Europe soit en sécurité. Et puis, c'est une manière aussi, si vous voulez, de peser dans l'intense période de négociation qui va s'annoncer là dans les semaines à venir.
Alors, vous parliez, Gwendoline, de ces djihadistes étrangers dans les rangs de l'État islamique. Vous êtes retournée dans le camp de Rorge, où sont détenues près de 500 familles étrangères, un camp où vous étiez allié il y a déjà quelques mois pour Europe 1. On écoute la suite de votre reportage.
Le camp s'est agrandi, une école pour les centaines d'enfants qui vivent ici a été ouverte, ainsi qu'un dispensaire. La dizaine de Françaises que nous avions rencontrées est toujours là. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'idéologie radicale, la tension entre les groupes de femmes et les questions incessantes, comme nous le racontent cette Belge et cette Autrichienne.
Une de mes amies a été attaquée avec des pierres et à coups de marteau. Elles ont essayé de brûler une tente il y a quelques jours. Certaines Françaises qui voulaient rentrer en France avant voient maintenant que leur pays ne veut pas d'elles. Elles disent « Ok, je reste là, c'est mieux que de rentrer ».
On a entendu que les Américains partaient. Certaines ici sont effrayées parce que si les États-Unis s'en vont, qui va venir après? On a toute peur de Bachar. De Bachar ou d'aller en Irak? Entre quelles mains allons-nous tomber? Qu'est-ce qui va se passer? On se pose ces questions non-stop.
Alors, les gouvernements occidentaux tentent de trouver des solutions. Selon nos informations, une mission du ministère des Affaires étrangères français a rencontré les djihadistes françaises dans ce camp il y a 2 mois. Plusieurs d'entre elles étaient alors d'accord pour que leurs enfants soient rapatriés. Depuis, la plupart se sont rétractés, considérant que garder leurs enfants ici avec elles était leur meilleure garantie d'être rapatriés avec. Une seule est toujours d'accord pour que ses enfants rentrent en France.
On a bien compris, Gwendoline, en vous entendant, la tension dans ce camp qui ne devrait pas retomber car actuellement les Kurdes continuent à faire prisonniers des familles de djihadistes étrangers. Quel sort pour ces femmes et ces enfants? Et on pense particulièrement effectivement aux Françaises qui sont présentes dans ce camp avec leurs enfants.
Oui, parce que pour l'instant, en tout cas pour les familles françaises, elles patientent toujours. Toutes celles que nous avions rencontrées quand nous étions allées en avril dernier sont toujours là. En fait, si vous voulez, les Kurdes de toute façon sont sur la même position. Aucun et aucune de ces djihadistes ne sera jugée sur place. D'abord parce que l'administration kurde autogérée n'est reconnue par personne. Elle n'a pas légitimité à juger des étrangers. C'est une situation qui est par exemple très différente si on compare à l'Irak qui a un gouvernement souverain. Et pour la France, la position est aussi toujours la même. Les enfants peuvent être rapatriés, mais pour l'instant, les adultes restent. Alors voilà, il y a eu cette mission du Quai d'Orsay qui s'est rendue dans le camp il y a 2 mois, qui a vu ces Françaises, qui les a interrogées pour savoir qui voulait voir ses enfants rapatriés. À ce moment-là, beaucoup étaient d'accord. Depuis, effectivement, elles se sont rétractées, hein, pour plusieurs raisons, parce que toutes djihadistes qu'elles soient, ce sont des femmes qui ne veulent pas être séparées de leurs enfants, sans savoir quand est-ce qu'elles pourront les revoir. Et puis, effectivement, beaucoup considèrent leurs enfants comme une assurance vie, hein. Si elles les gardent, elles pensent qu'elles ont de meilleures chances d'être rapatriée un jour en France. Donc pour l'instant, ça, c'est quelque chose qui ne change pas, même si la situation ici est très évolutive et donc qu'elles ne pourront pas forcément rester là indéfiniment.
Merci beaucoup Gwendoline Debonneau, envoyée spéciale d'Europe 1. On le rappelle, dans le nord de la Syrie. Merci Gwendoline.
Merci.
Europe 1.
Roule-t-on plus vite avec la multiplication des dégradations des radars depuis le début du mouvement des Gilets jaunes? Réponse dans un instant avec Martin Fenot dans la région de Belfort.
L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tous les samedis de 13h à 14h sur Europe 1, tout terrain avec vous, Fabienne Lemoyle, et on va parler maintenant sécurité routière.
C'est lundi que le gouvernement va dévoiler les chiffres de la mortalité routière pour 2018 et surtout un premier bilan des 6 mois des 80 km/h. La baisse de la limitation de vitesse est dans le viseur des Gilets jaunes avec de nombreux radars dégradés depuis novembre.
La vitre du flash, elle a totalement fondu. Ce radar a été incendié au début du mouvement des Gilets jaunes. D'accord. Il y a 2 mois, ici à Rope, près de Belfort. Et depuis, il n'y a eu aucune réparation.
Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui êtes donc allé dans la banlieue de Belfort où un radar a été dégradé. Pourquoi à cet endroit précisément, sachant Martin que ces dégradations ont touché 60% des radars sur tout le territoire ?
Alors en fait, c'est un article que j'ai lu dans un journal local, l'Est Républicain, qui se faisait le relais du coup de gueule d'un élu, d'un maire, d'un village près de Belfort, le village de Rope. C'était courant décembre. Ce maire, il réclamait la réparation urgente du radar installé dans la commune. Un radar automatique planté sur le bas-côté d'une départementale qui traverse le village, limité à 50 km/h. Un radar qui avait d'abord été masqué par un gilet jaune, posé dessus, et quelques jours plus tard, incendié, il a brûlé. Ça, c'était donc au tout début du mois de décembre. Et donc aujourd'hui, je voulais rappeler ce maire parce que 2 mois plus tard, les réparations n'avaient toujours pas été effectuées. Or, ce n'est pas anecdotique parce que ça reflète un peu le problème que rencontrent beaucoup d'élus en ce moment. Plus largement, il y a énormément de radars qui ne sont plus en état de fonctionner aujourd'hui en France parce qu'ils ont été cassés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Or, ce qui inquiète, c'est que les automobilistes reprennent de mauvaises habitudes. En clair, qu'en l'absence de la peur de l'amende, ils ne respectent plus les limitations de vitesse.
On voit le rôle majeur que jouent ces radars dans la limitation de vitesse pour la faire respecter. Mais vous, sur le terrain, quel est votre constat? Est-ce que justement le fait que le radar soit hors de service change les comportements?
Alors, d'abord, sur place, c'est un constat qui a été établi par les habitants que j'ai rencontrés. Celui que vous allez entendre tout de suite, il habite la maison juste en face du radar. Écoutez.
Vous le voyez, quand il y avait le radar, la limitation de 50 était respectée. Et maintenant, le souci, c'est que vous voyez bien, les vitesses maintenant ont augmenté. Il y a un mois, il y a un camion qui roulait assez vite. Arrivé vers la mairie, quelqu'un passait dans le passage flouté, il a freiné et il a carrément cassé la voiture du maire.
Voilà, alors ça, c'est la description donnée par un riverain, son inquiétude.
On voit clairement, effectivement, des voitures pour lui qui roulent plus vite.
Exactement, c'est son témoignage en même temps. Alors, j'ai voulu aussi interroger des conducteurs. Il y a 13 000 véhicules, des camions, des voitures qui traversent le village tous les jours. Et quelques automobilistes, pas tous, quelques-uns, comme cette mère de famille, ont avoué qu'ils roulaient désormais plus vite depuis que le radar est cassé.
J'avoue que je fais moins attention, vu que je sais qu'il est cramé. J'avoue que du coup, on se met pas à 50 piles. Si je passe que je suis à 55 ou 60, je suis pas le pied sur le frein. Forcément, c'est plus cool. Donc voilà. Si on n'abuse pas, si on arrive à rester sérieux, même si on sait qu'il n'y a pas de radar, ça va.
Mais vous restez pas sérieuse?
Ça va. Plus ou moins.
Voilà, on vient d'entendre Evelyne qui visiblement ne respecte pas les 50 km/h et qui prend ça avec une certaine légèreté quand même, Martin.
Oui, effectivement, d'autant que elle explique que la position des radars cassés est connue maintenant par les habitants du coin. Du coup, elle admettait qu'elle ne faisait plus l'effort de respecter la limitation de vitesse ou du moins de ralentir en passant à côté du radar. Et puis, pour prendre
combien, du coup ?
Alors, elle me disait qu'elle pouvait rouler jusqu'à 60-65 km/h à l'intérieur du village, un village où elle habite. Hein. Elle est habitante de ce village d'Europe. Et puis, juste pour prendre un petit peu de recul, j'ai aussi interrogé le maire de la commune, ce maire dont je vous parlais, qui lui se faisait le porte-voix de l'inquiétude des habitants. Écoutez, il explique l'utilité de ce radar, mais sur plusieurs années, il a été installé en 2006 à sa demande. Sachez qu'avant, il y avait énormément d'accidents dans le village. Écoutez le maire.
Un par semaine en moyenne. Il y a eu un accident célèbre, c'était Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan qui avait, lors d'un excès de vitesse, avait raté le virage à l'entrée de la commune et était parti dans les décors. Depuis l'installation du radar, il n'y en a eu que deux.
Voilà, que deux accidents de 2006 en plus de 12 ans, alors qu'il y en avait un toutes les semaines avant. Voilà ça pose un petit peu le constat en tout cas de l'efficacité du radar, en tout cas à cet endroit, et ce qui permet de mieux comprendre aussi pourquoi le maire et certains habitants se mobilisent pour qu'il soit réparé au plus vite.
Et justement, on en est où de cette réparation ?
Alors, le maire a fait une demande à la préfète, pas de réponse pour l'instant. En fait, c'est à l'État d'engager les réparations. Pour se faire une idée, le coût pour un radar, pour ce radar qui est un vieux radar, un radar de première génération, c'est 70 000 euros. Ça peut grimper au-dessus de 100 000 pour un radar plus récent. On parle là carrément de remplacer le radar quand il a été brûlé, par exemple, dans ce village. Ce qui n'est pas le cas de tous les radars 4500 qui ont été dégradés en France. C'est un chiffre révélé d'ailleurs par Europe 1. Et dernier élément, l'impact sur la vitesse, il a été mesuré selon le délégué ministériel à la sécurité routière. Il est question d'une augmentation de 250% des excès de vitesse sur les routes nationales et départementales ces dernières semaines, depuis que les radars ont été cassés ou dégradés.
Effectivement, Emmanuel Barbe qui disait d'ailleurs la semaine dernière sur Europe 1 que ces dégradations allaient coûter très cher aux contribuables. Merci beaucoup Martin Fenot. On l'a dit, on aura les chiffres de la mortalité pour 2018 lundi. Et je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins sur Europe 1 en alternance avec Carole Ferry juste après le journal de 7h pour la séquence « Vous êtes où ce matin ?» avec Nikos Aliagas. Merci Martin.
À bientôt Fabienne.
Europe 1.
Le froid s'est installé cette semaine sur une partie de la France. Nous avons accompagné une maraude dans les rues de Paris auprès des SDF.
Il est 13h22, suite de notre émission Grand Reportage Tout Terrain. Vous le savez, on revient sur les événements marquants de la semaine jusqu'à 14h. Avec vous, Fabienne Lemoelle.
Ça ne vous a pas échappé, les températures ont plongé cette semaine, avec même de la neige par endroits. Premier confronté à ces températures glaciales, ceux qui vivent dans la rue, alors les maraudes s'enchaînent pour leur venir en aide.
Thierry, 55 ans, vit dehors depuis plusieurs années. Il est frigorifié.
Je suis gelé. J'ai demandé un pull, un t-shirt. Merci, très gentil.
Et dans son sac de couchage devant la gare d'Austerlitz, Benjamin se réchauffe avec un peu d'humanité et un gobelet de soupe de légumes.
Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui avez suivi cette maraude pour Europe 1. Déjà expliquez-nous où ça s'est passé et à quelle heure, parce qu'on va le voir avec vous, une maraude ce n'est pas forcément la nuit.
Voilà, tout à fait, on était dimanche dernier à la mi-journée, début d'après-midi. Il fait déjà 3 degrés dehors, zéro en ressenti. Donc on est dans le 13e arrondissement, on s'est retrouvé à Porte d'Italie. C'est un secteur que la team maraude que j'ai suivi ne connaît pas du tout. Leur quartier d'habitude c'est plutôt la gare de Lyon, et donc là c'était une grande découverte pour eux.
Alors justement, comment ils opèrent puisqu'ils sont dans un quartier qu'ils ne connaissent pas?
Alors on est une petite dizaine, 4 voitures remplies à ras-bord à l'arrière et dans le coffre. Il fait très froid, donc il y a des couvertures, des chaussettes, des pantalons, des gants. L'équipe avait également préparé des petits sacs, des kits alimentaires avec à l'intérieur un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat, une orange, une pomme, des chips, un sandwich, un jus de fruits, une petite bouteille d'eau et surtout, très important, un kit d'hygiène avec une brosse à dents, des cotons-tiges, un rasoir, des mouchoirs, un gant, du savon, du papier toilette et des pansements, également des serviettes hygiéniques pour les femmes. Ils ont même pensé à prendre des croquettes pour les chiens. Alors l'idée, elle est très simple, on roule et dès qu'on croise un sans-abri, eh bien on s'arrête. Et au niveau du métro Tolbiac, c'est le premier stop.
Est-ce qu'on peut vous apporter des vêtements ou des chaussettes?
Ouais, si, on va avoir chaud.
Vous voulez un pull, monsieur? Je vais un petit peu de soupe, monsieur, ça vous réchauffera.
Non, moi je veux du café.
Voilà, c'est la grande distribution. La team Maraude a pensé aux boissons chaudes. Il y a des thermos de café, de thé. Thierry, Joao et Victoziano dorment dans la rue. Pas de place au 115. Alors évidemment, les vêtements chauds sont les bienvenus.
Je suis gelé. J'ai demandé un pull, un t-shirt, des chaussettes et un jean. Merci.
Et je remercie de fond du cœur.
Voilà, quand on entend votre reportage, cet échange, j'ai l'impression que le contact est facile, alors que souvent, quand on est dans la rue, on est désocialisé. Est-ce que vous, ils vous ont parlé facilement ?
Eh bien oui, le contact est toujours très simple, même si certains refusent de parler au micro, peut-être par discrétion ou par pudeur. Certains aussi ne veulent pas recevoir d'aide. C'est arrivé une fois, dimanche dernier.
Pour quelle raison ?
Mais je ne sais pas, bonne question. Il n'a pas voulu recevoir d'aide, ce monsieur qu'on a croisé au niveau du métro national sur la ligne 6. Mais sinon, oui, effectivement, ils sont très en demande d'échanger, surtout en fait, de parler. C'est parfois plus important que de donner un sandwich. Donc très souvent, la discussion s'engage entre les bénévoles et les sans-abri sur les trottoirs ou comme ici, sous le pont du métro aérien quai de la gare avec Frédéric.
Nous, ça nous permet d'avoir un contact avec le citoyen.
Tout à fait.
On s'aperçoit que dans la vie de quelqu'un, un accident de parcours arrive.
Exactement.
Et que cet accident peut le mettre à terre.
Exactement. On n'est pas à l'abri.
On a souvent l'habitude de suivre des maraudes dans ces périodes de grand froid. On le fait avec le SAMU social, on l'a souvent fait avec la Croix-Rouge. Là, la particularité, vous avez parlé de type maraude, c'est qu'en fait, ces bénévoles que vous avez suivis, c'est une bande de copains qui se sont rencontrés via Facebook. Martin Fenot avait d'ailleurs rencontré Sabrina, qui est à l'origine de tout. C'était il y a 2 ans, quand elle a eu cette idée. On va l'écouter.
Il y a eu l'afflux de migrants, de Syriens en France. Et de voir tous ces bébés, ces enfants dans des poussettes en plein hiver, pendant que leur maman mendiait, c'était pas possible pour moi de rester dans ma voiture et de regarder ça, quoi. De là, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer l'initiative sur Facebook. Ma première réponse, c'est la sœur de ma belle-sœur qui m'a répondu et qui m'a dit « on y va ».
Voilà Sabrina, donc de la team Maraude, qui avait rencontré Martin Fenot la semaine dernière et qu'on avait entendu dans « Vous êtes où ce matin ?». Comment ils se financent ?
Eh bien, tout simplement par une cagnotte en ligne. Plusieurs centaines d'euros sont ainsi récoltés pour pouvoir acheter la nourriture et les vêtements. Ça permet à ceux qui soutiennent l'initiative et qui ne peuvent pas marauder de participer par un don financier. Et d'ailleurs, de plus en plus de monde est séduit.
Vous étiez justement avec des nouvelles recrues lors de cette maraude.
Oui, ce sont des jeunes femmes, la trentaine d'années, souvent des mamans comme Stéphanie, qui m'a dit par exemple que le fait d'avoir eu un enfant avait changé son rapport aux autres.
C'est exactement ça le type de profil qu'on
oui,
retrouve ?
Oui, beaucoup. Il y a assez peu de gens qui travaillent dans le social, c'est surtout une assistante dentaire par exemple ou une comptable. Et donc Stéphanie qui m'a dit que voilà, on ne pense plus qu'à soi, on pense aux autres. Ça réchauffe aussi le cœur des bénévoles comme Eugénie et Mariana, donc qui maraudaient pour la première fois.
Première maraude, ouais, on se sent vraiment utile, donc ça donne envie vraiment de continuer en fait. Donc, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut on prend le temps aussi de discuter avec eux.
C'est la première fois, donc je suis très émue. Ils sont très organisés, l'équipe est très organisée. Et wow, ça fait chaud au cœur. Quoi, parce qu'on se rend compte que nous, on a un toit, on a à manger. Puis il y en a d'autres qui sont dans la rue, qui n'ont rien. Donc pourquoi pas aider, quoi.
On le voit, c'est vraiment un échange qui a l'air d'être très précieux pour elles quand on les entend. Est-ce que ça se passe toute l'année ? Là, je bats aussi un peu notre coulpe à nous médias. On parle beaucoup des maraudes pendant l'hiver parce qu'il fait froid. Mais est-ce que ça se développe aussi le reste de l'année ?
Eh bien, la team Maraude essaye justement de marauder tous les mois et demi. Ça dépend aussi des disponibilités de chacun et des vacances scolaires. D'ailleurs, l'été, il y a moins de bénévoles de disponibles, donc pas de maraude. Mais comme le groupe s'est agrandi, eh bien, la team pense que ce sera sûrement faisable l'été prochain, surtout s'il y a une canicule.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. Et si on veut retrouver justement les activités de la team Maraude, eh bien, il y a un compte Twitter, @tmaraude, M-A-R-A-U-D-E. Merci beaucoup Jean-Gabriel.
Merci Fabienne.
Europe 1.
À suivre, le bureau des légendes, ce n'est pas qu'à l'étranger. Des espions font aussi du renseignement en prison. Reportage exceptionnel dans un instant de Salomé Legrand.
Vous écoutez Tout Terrain jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Fabienne Lemoyle.
Et pour continuer Tout Terrain, je vous propose un reportage exceptionnel sur le monde des agents secrets. Mais pas en Irak ou en Syrie, non, au cœur des prisons françaises avec le renseignement pénitentiaire qui d'ici quelques mois va devenir un vrai service à part entière. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Du service police-justice d'Europe 1, c'est donc vous qui avez eu l'autorisation très exceptionnelle, on le rappelle, de passer une journée avec la cellule du renseignement pénitentiaire. C'était à Strasbourg. Donc à autorisation exceptionnelle, j'imagine, conditions de travail exceptionnelles. Quelle particularité pour ce reportage par rapport à ceux que vous faites généralement ?
Alors d'abord, beaucoup de temps et de patience parce qu'il a fallu négocier de longs mois pour avoir l'autorisation. La première demande du service police-justice pour ce reportage, elle date d'il y a à peu près un an. Ensuite, c'est une question de confiance à instaurer avec les interlocuteurs et de leur faire comprendre qu'on a besoin d'un certain nombre de détails pour évidemment pouvoir rendre compte au plus près de ce qu'ils font, mais qu'il y a d'autres détails qu'on est prêt à passer sous silence pour des questions de sécurité. Vous allez l'entendre tout au long du sujet. On ne donne pas les noms de famille des interlocuteurs. Ça pourrait les mettre en danger. On n'a pas les âges des détenus dont on nous parle. On ne sait pas si ça s'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois. On a le plus de détails possible tout en limitant les enjeux pour la sécurité.
Alors, vous arrivez à Strasbourg, ça ressemble à quoi l'endroit où vous êtes ? Vous êtes en prison déjà ?
Non, on est dans les locaux de l'administration pénitentiaire pour toute la zone. Sauf que le renseignement pénitentiaire à ses bureaux dans une zone spécifique qui est une zone classifiée zone protégée. Pour y accéder, on passe une porte blindée, blindée avec un badge et un code. Il y a une salle pour les documents classifiés à laquelle j'ai même pas pu avoir accès moi, même pas jeter un petit coup d'œil. Sinon, c'est des bureaux classiques tout neufs, préfabriqués, lino au sol, gros ordinateur. Mais tout ça répond à des exigences de sécurité, à la professionnalisation du renseignement pénitentiaire.
Alors, vous avez prononcé le mot professionnalisation parce que ce qui est nouveau, c'est le fait que ça devienne un service de renseignement à part entière. Pourquoi c'était nécessaire ?
Eh bien, pour échanger d'égal à égal avec les autres services de renseignement comme la DGSI, la DGSE ou le renseignement territorial, notamment du fait de la menace terroriste, mais pas que. Jusque-là, le renseignement pénitentiaire existait, il donnait beaucoup d'informations, mais il en recevait très peu parce qu'il n'était pas habilité. Il est maintenant soumis aux mêmes homologations, le secret défense, etc. Et par exemple, à Strasbourg, où je me suis rendue, un agent sur la dizaine que compte la cellule interrégionale est en charge de ça, la classification, les normes de sécurité.
Alors Salomé, évidemment, le premier niveau d'espion, ce sont les agents du renseignement et là, ils sont directement dans les prisons.
Eh oui, donc si on reprend cette cellule interrégionale de Strasbourg, elle est en charge de toute la zone Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, c'est-à-dire 24 établissements, dont deux maisons centrales, 6200 détenus et 17 000 personnes suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire les bracelets électroniques, contrôle judiciaire, etc. Il y a 24 détenus pour des faits de terrorisme, une centaine de personnes suivies au titre de la radicalisation, plus tous les profils du grand banditisme et ceux capables d'évasion violente comme Redouane Faïd, tout ça dans les radars de cette cellule.
Donc on voit beaucoup de monde dans le viseur et pour suivre tous ces profils.
Deux sortes d'agents, il y a des temps pleins clairement identifiés, ils sont une poignée, et une quarantaine d'officiers, de surveillants, de cadres d'insertion et de probation qui sont eux à temps partiel parce qu'en fait ils travaillent sous couverture de vrais postes de l'administration, comme l'explique Thomas, le chef de la CIRP.
C'est-à-dire qu'ils seront plus perçus par la détention comme étant officiers responsables de bâtiments ou en charge d'un secteur spécifique et leur permettre d'être plus discrets dans leurs investigations et de ne pas semer le doute.
Ils ont une double casquette, c'est ça ?
Exactement, ce qui a l'avantage de leur donner une forme de légende, même si on ne peut pas parler d'agents infiltrés en tant que tels.
Il n'y a que la direction de la prison qui est au courant et quelques collègues qui peuvent être mis dans la confidence. C'est à eux de gérer leurs sources. Virginie est la chef adjointe de cette CIRP. Elle coordonne leur travail.
On a un co-détenu qui nous explique qu'un autre détenu a des velléités d'évasion. Notre capteur en détention nous fait remonter cette information et son travail, du coup, ça va être déjà de débroussailler le terrain au niveau local, de vérifier qu'est-ce qui donne les moyens à celui qui a des velléités d'évasion de partir. Est-ce qu'il y a un réseau, par exemple, à l'extérieur important, il va pouvoir le déceler via les correspondances écrites, tout ce qui rentre en détention de l'extérieur, donc l'argent, la téléphonie, les parloirs. Et à partir de ce moment-là, on va suivre attentivement la personne sur cette thématique. Ça peut être sur la radicalisation, un changement d'apparence physique ou un isolement, quelqu'un qui soudainement a beaucoup de co-détenus qui lui rendent visite. Par exemple, sur des trafics, voilà, quelqu'un qui soudainement a beaucoup d'échanges, change de denrées, ça peut nous interpeller.
Et parce qu'il faut savoir que 95% du renseignement pénitentiaire provient de renseignements humains.
Alors, on entend sources humaines, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que ces agents qui peuvent être des sources, il y a aussi des détenus.
Et oui, il y en a qui balancent, entre guillemets, ponctuellement, et d'autres qui sont recrutés et immatriculés. Impossible de savoir combien il y en a en France, hein, l'information est classifiée. Leur fiabilité est testée, par exemple, en leur confiant une mission, comme recueillir un renseignement précis. Une fiabilité qui peut aussi être récompensée, jamais par de l'argent, mais il y a d'autres moyens. Écoutez Charlotte, la chef du bureau central du renseignement pénitentiaire.
On a quelques leviers pénitentiaires qui peuvent inciter spontanément ou de façon provoquée, les détenus à collaborer avec nous. Je pense notamment au fait de favoriser ou d'accélérer un transfert d'établissement, de changer un détenu de cellule pour lui permettre d'être avec un co-détenu avec qui il s'entendra mieux. Si un détenu décide de collaborer avec le renseignement pénitentiaire, il doit être spécialement protégé. C'est très compliqué d'organiser un rendez-vous dans le milieu carcéral pour que ce ne soit pas su et vu par les autres détenus.
Et il faut donc un des prétextes pour se retrouver, soit au beau milieu de la détention, ou alors organiser des rendez-vous en marge d'extraction médicale ou judiciaire, par exemple, pour que l'agent et la source échangent en toute sécurité. Attention, il n'y a pas d'agent qui se font passer pour des détenus.
Et on a bien compris effectivement que les relations peuvent se faire quand il y a un rendez-vous médical à l'extérieur ou une audience à l'extérieur pour un détenu. C'est l'occasion d'échanger avec son agent de liaison en quelque sorte.
Voilà, exactement.
Alors deuxième niveau, et c'est là que ça fait partie de la professionnalisation, c'est ce que vous appelez la CIRP, on va traduire.
Cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire. Donc à Strasbourg, il y a quelques délégués comme ça, interrégionaux, qui chapeautent tout le travail de ceux qui sont en détention. Ils recoupent les informations, échangent avec donc les fameux autres services de renseignement. Certains sur la radicalisation, d'autres comme Jean-Pierre sur la criminalité organisée et les trafics. Et il a vu un exemple arriver, c'est une nouvelle problématique en matière de sécurité pénitentiaire.
C'est des clans qui viennent des Antilles. Et ces gens-là sont dans un cadre de violence pour eux légitime et normal.
Quel est votre rôle face à ça ?
Eh bien, d'essayer de voir, dire si ces gens-là essaient de mettre la pression sur quelqu'un, de s'imposer en détention par la violence. Ils ont des apparences typiques à eux, que ce soit vestimentaire, tatouage ou par la gestuelle. Nous faisons une petite synthèse de ça et nous la transmettons ensuite aux délégués qui sont sur les établissements. Il faut, je veux dire, qu'ils aient une connaissance plus approfondie des détenus qu'ils vont avoir à gérer, quoi.
Alors, on a bien compris, Salomé, que beaucoup reposait sur le renseignement humain, mais le renseignement pénitentiaire a aussi des moyens techniques et juridiques comme ceux qui peuvent être accordés à la DGSI.
Eh oui, comme poser des micros dans une cellule, mettre une caméra dans un parloir, intercepter les conversations téléphoniques ou Internet. À la cellule interrégionale, à Strasbourg, il y a une poignée d'analystes qui sont un peu geeks et qui sont capables
c'est
de...
C'est le bureau d'élégance que vous nous racontez là quand même. Hein,
ah bah c'est ça, en prison, exactement. Ils sont capables de craquer le code d'un téléphone portable, d'en étudier les données et donc de faire de toutes ces données extraites des supports informatiques, des renseignements et des informations qui complètent les autres. C'est un travail précieux. Jérôme est l'un de ses analystes.
Beaucoup de recoupements de numéros, d'identité. C'est arrivé, on trouve un détenu qui avait créé des faux comptes d'avocat. Il faisait du racket auprès de sociétés depuis son smartphone. C'est des choses qui se passent le soir, quand les cellules sont fermées, qui sont tranquilles en détention.
Des relations entre détenus qui ne seraient pas visibles, avec même des flux financiers.
Oui, exactement. Les détenus se servent des smartphones pour aller sur des sites de jeux en ligne. Ils font du trafic comme ça, en passant par des comptes de transit. On établit, on appelle ça un rapport d'investigation, pour voir qui est en relation avec qui, les SMS qui ont été échangés, comment se sont passés les flux.
Et toutes ces informations, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Parce qu'on imagine qu'on ne fait pas tout ça juste pour faire de la veille.
Eh bien non, soit elles deviennent des procédures judiciaires, s'il y a une infraction qui est commise comme un trafic ou une infraction qui risque d'être commise comme une évasion. L'administration pénitentiaire peut aussi s'en servir pour transférer un détenu, isoler un meneur, etc. Et puis, ces informations, surtout, elles s'échangent donc avec les autres services, on l'a dit, pour assurer la continuité du suivi entre la prison et l'extérieur, pour que la prison ne soit pas une parenthèse dans la vie de quelqu'un qui serait suivi par le renseignement territorial, par exemple. Évidemment, on pense aux profils radicalisés et notamment ceux qui vont sortir de prison. À Strasbourg, deux personnes passent chaque semaine toute la liste des objectifs suivis dans les logiciels pour vérifier qu'ils n'ont pas raté une date de sortie ou une remise de peine qui ferait que l'un ou l'autre sortirait dans quelques jours et qu'il faut faire la fameuse fiche de suivi qui va être remise au service extérieur à la prison. J'ai pu consulter une de ces fiches, enfin en tout cas un modèle, évidemment elle n'était pas remplie, mais on y trouve la synthèse du parcours en détention, pourquoi cette personne était incarcérée, les pratiques notées en prison et l'évaluation de sa dangerosité.
Merci beaucoup Salomé Nogrand pour cette immersion dans le renseignement pénitentiaire et pour avoir travaillé très longtemps sur la question des prisons à Europe 1. Je sais combien ce type d'autorisation n'est pas facile à obtenir et qu'elle demande du temps.
Mais que c'est passionnant.
Merci Salomé.
13h44, tout terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1 se poursuit avec vous, Fabienne Lemoelle.
Leur amitié aura duré plus de 40 ans. Catherine Deneuve s'est donc séparée de la garde-robe que lui avait dessinée Yves Saint-Laurent depuis leur rencontre en 1965. Vente aux enchères mercredi chez Christie's.
Pas d'autres enchérisseurs dans la salle, c'est bien vu, à 34 000, j'adjuge. Merci Katia, 34 000 adjugés au
Bonjour Victor Delande.
Bonjour Fabienne.
34 000 euros, c'était pour quelle pièce?
C'était pour une robe que portait Catherine Deneuve quand elle a rencontré Alfred Hitchcock, une robe avec plein de petites perles de sequins.
Voilà, on est déjà dans le rêve. C'est vous qui avez eu la chance justement de suivre cette vente et de vous plonger dans l'univers d'Yves Saint-Laurent à travers, vous le disiez, la superbe garde-robe qu'il a réalisée tout au long de sa vie pour Catherine Deneuve. Vous allez d'abord nous emmener dans la salle d'exposition parce que c'est là que commence en fait la vente aux enchères. C'est là que les potentiels acquéreurs peuvent découvrir ce qui va être vendu. Qui était là, Victor? Est-ce que c'était juste des fans de Catherine Deneuve? Parce qu'il y avait une chose extraordinaire, c'est qu'on pouvait essayer les robes.
Oui, tout à fait. En tout, 350 pièces de la garde-robe de Catherine Deneuve étaient exposées. C'est vraiment, il faut comprendre, une partie de notre patrimoine commun qui était dans les murs de Christie's, puisque ces robes, aussi bien de prêt-à-porter que de haute couture, ont été portées par l'actrice dans des festivals, mais aussi à l'écran. Il y avait les fameux smoking en satin, des robes en crêpe de soie, des chaussures, des accessoires. J'ai croisé notamment Florence qui a littéralement alors craqué sur une robe dos nu.
J'aime beaucoup la robe 65. Elle me plaît autant portée que sur le cintre. Ouais, je la trouve vraiment magnifique, quoi. Je pense que je vais consulter mon banquier, qui en l'occurrence est mon mari, et je vais lui demander jusqu'à quel prix je peux aller.
Alors, au milieu de robes en lamé or, de veste cintrée, il y avait aussi cette fameuse capeline que portait Catherine Deneuve dans le film de François Truffaut, La sirène du Mississippi. Rappelez-vous, c'était en 1969.
Vous trouvez que je ne ressemble pas à la photo?
Non.
Le portrait que je vous ai envoyé n'était pas le mien. C'est celui d'une voisine.
Dans cette collection exceptionnelle, un modèle quasiment pour chaque femme. C'est là où on se rend compte qu'Yves Saint-Laurent était vraiment le couturier de toutes les femmes, comme l'explique Camille de Foresta, commissaire-priseur chez Christie's.
Ces tenues, robes, manteaux, vestes, ont été essayées par des femmes de tout âge, de toute morphologie, toute silhouette. Et c'est amusant parce que il y a vraiment un vêtement pour chacune. Il y a des robes. Je pense à une robe en particulier absolument divine sur une cliente. Une cliente qui, avant d'essayer cette robe, avait essayé je ne sais pas combien de vestes de smoking et ça n'allait jamais vraiment bien. Et là, cette robe qui est pourtant un fourreau avec le haut, le dos décolleté jusqu'aux fesses, sur elle, c'était absolument extraordinaire.
C'est incroyable de penser qu'effectivement, cette robe faite pour Catherine Deneuve... En vous toutes les femmes. Cette vente aux enchères, Victor, justement, elle retrace vraiment cette amitié, ces 40 ans d'amitié entre le couturier et l'actrice. Alors, la vente aux enchères, c'était jeudi après-midi. Vous étiez dans la salle, Victor. C'était quoi l'ambiance?
Alors, je vous emmène dans une salle pleine à craquer, 300 personnes assises et debout sur le côté de la salle des vendeurs, au téléphone avec des acheteurs en ligne. Face au commissaire-priseur, un écran avec les enchères également en ligne et des lots défilent. Alors attention à ne surtout pas vous recoiffer ou même toucher simplement.
Vous n'avez pas levé le bras, hein. C'est toujours
lunettes.
Le mythe. Hein.
Exactement.
On se dit qu'on va se retrouver avec 300 000 euros en moins sur
un geste,
le compte en banque.
Un mauvais geste peut être interprété comme une enchère. Et à ce jeu, le maître de cérémonie, le commissaire-priseur François de Riclès, joue avec la salle. Il interpelle des clients, adresse ici et là un compliment. Il anime avec beaucoup, beaucoup de talent la vente.
Qui était dans la salle? Est-ce que c'était les femmes que vous aviez rencontrées justement dans la salle d'exposition? Est-ce qu'il y avait des musées? Je pense à Galliera, mais je pense aussi au musée de Marseille.
Oui, il y avait effectivement des personnes de ce musée-là qui ont préempté justement deux robes. Ça, c'était très intéressant à voir. Il y avait aussi des fans de Catherine Deneuve. Certains ont tenté quelques enchères un peu timides, il faut l'avouer. Des fans aussi d'Yves Saint-Laurent, comme Clara, qui a essayé d'acheter la fameuse capeline. Elle est montée jusqu'à 2200 euros, mais malheureusement, ça n'a pas suffi.
Déjà, j'avais déjà dépassé le max. Au début, je m'étais dit pas plus de 2000, mais c'était une capeline d'Angèle Saint-Laurent que j'adore et aussi un film de Truffaut. Et en plus, elle m'allait très bien parce que je l'avais essayée et c'était parfait.
Alors finalement, cette capeline, elle est partie à 3500 euros.
Et dans les mains de qui ?
Dans les mains d'une autre dame qui était juste à côté d'elle. Donc elle avait beaucoup de regrets, mais elle s'est dit qu'elle aurait pu l'avoir. Mais à 1300 euros près, elle n'a pas voulu faire cette folie. Dans la salle, j'ai aussi rencontré Michel, une dame habillée alors pour l'occasion en Saint-Laurent de la tête aux pieds.
Donc une inconditionnelle.
Ah oui, alors vraiment une fan d'Yves Saint-Laurent avec des petits hochements de tête aussi rapides qu'élégants. Elle s'est offert un paletot en feuilles de soie miel avec une parementure de renard. Pour la modique somme quand même de 9 500 €, elle nous explique pourquoi elle l'a acheté.
Le porter et l'avoir dans son dressing. J'ai eu le bonheur de croiser à plusieurs reprises le chemin de M. Saint-Laurent et de M. Berger. Et la nostalgie du passé, la mode, c'est plus ce que c'était. Tout est moche.
Au final, ça a donné quoi cette vente et combien ça a rapporté?
Oui, alors après 5 heures d'enchères, les 129 lots auront rapporté près de 900 000 € à Catherine Deneuve. Il y a encore 150 lots qui sont vendus aux enchères, mais sur Internet. Vous avez donc jusqu'au 30 janvier à minuit pour faire une folie. Alors l'actrice ne veut pas dire ce qu'elle fera de l'argent.
Oui, c'est toute la question que tout le monde se pose, parce que c'est vrai que ces pièces faites pour elle par Yves Saint-Laurent lui ont été données par Yves Saint-Laurent. D'un autre côté, elle les a portées et elle a fait la renommée aussi d'Yves Saint-Laurent à travers le monde en les portant.
Exactement, mais dans la salle, je vous cache pas qu'il y avait pas mal de mauvaises langues qui ont souligné la pingrerie de l'actrice, car je cite, elle vendait justement ses cadeaux d'Yves Saint-Laurent. A signalé également dans le même temps, la vente des tenues de Mouna Ayoub a rapporté 400 000 € avec notamment une veste de soie adjugée à quand même 175 000 €, Fabienne.
Et d'ailleurs, Victor, Catherine Deneuve a répondu à ces mauvaises langues dans Figaro il y a quelques jours en disant que le produit de cette vente, elle avait son idée mais qu'elle l'a gardée pour elle et que personne n'a à savoir ce qu'elle va faire de cet argent, qu'il y a des affaires de l'ordre du public, d'autres du privé, tout est dit.
Et chez Christie's, pareil, on répond, ça reste privé.
Merci beaucoup Victor Deland de nous avoir fait découvrir ce monde merveilleux d'Yves Saint-Laurent.
Avec plaisir.
Europe 1.
Dans un instant, hommage dans tout terrain au grand compositeur Michel Legrand. Thierry Geffrotin va nous faire revivre les ultimes répétitions du maestro. C'était pour Peau d'Âne au Théâtre Marigny.
Fabienne Lemoyle, on ne pouvait pas terminer ce tout-terrain sans un hommage à Michel Legrand. Il nous a quittés cette nuit à l'âge de 86 ans.
Michel Legrand, indissociablement lié à Jacques Demy avec les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort. Et on l'entend à l'instant, le fameux cake d'amour de Peau d'Âne, bien sûr. Bonjour, rebonjour Thierry Geffrotin avec moi en studio.
Bonjour Fabienne.
Vous nous aviez fait vivre justement dans tout-terrain les répétitions à Marigny puisqu'il avait fait de nouvelles compositions pour que le spectacle puisse se jouer sur scène parce qu'au départ, c'était un film, Peau d'Âne. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous l'avez vu dans ces répétitions?
La passion, l'énergie, l'envie de diriger, d'orchestrer, de composer. Il adorait la musique, il adorait la vie, Michel Legrand. Et moi, je l'ai donc vu la dernière fois. C'était la première de Peau d'Âne au Théâtre Marigny à Paris. Il était affaibli, mais voilà, les yeux pétillaient encore de musique. Il était tellement heureux que ce film qu'il avait tourné, vous l'avez dit, avec Jacques Demy en 1970, il y avait déjà 70 minutes de musique.
Mais ça ne suffisait pas pour faire une comédie musicale.
Donc, il a rajouté un petit peu de musique, on va dire un quart d'heure de musique, même un peu plus. La musique de transition, il était comme un enfant. Écoutez ce qu'il m'avait dit quand je lui avais tendu le micro en disant alors, comment vous êtes, Michel Legrand?
C'est l'émotion qui est là, c'est le plaisir d'écouter des choses auxquelles on ne s'attendait même pas quand on les fait nous-mêmes. C'est rigolo, oui, parce que ça fait près de 50 ans. On l'a fait à 70 pour Dan, avec demi. Alors c'est formidable, quoi.
Et vous avez fait comment? C'est le style elle-même, plus moderne, ça se passe comment?
Non, il faut être fidèle. La musique a un style précis en Peau d'Âne. Et puis, il faut suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui, c'est un jeu. Dans un coup, je m'amuse à prendre ce que j'ai écrit en 70 et à réécrire des trucs nouveaux d'aujourd'hui.
Il était comment, répétition?
1, 2, 1, 2, 3.
Voilà, les répétitions avec la baguette sur le pupitre, ça rigole pas.
Ah, c'était quelqu'un d'exigeant avec lui-même et exigeant évidemment avec les autres. Et je me souviens de cette séance d'enregistrement dans un studio de la banlieue parisienne. Il y avait des tout jeunes musiciens d'orchestre. Je ne vais pas dire qu'ils découvraient Michel Legrand parce qu'ils connaissaient évidemment sa musique, mais je pense qu'ils découvraient le chef d'orchestre. Alors, vous savez, les chefs d'orchestre, c'est pas des tyrans, mais enfin, ils sont là pour se faire respecter. Et bien, lui, il se faisait respecter. Il était même prêt parfois à dire leur vérité au cuivre, par exemple, ce jour-là, qu'il n'était pas tout à fait au rendez-vous. Écoutez plutôt.
Les cuivres, vous devez jouer comme les détachés du violon. Pap, 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 toujours. Rien de legato, hein. Ta, 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 ta. On reprend une fois tout le monde.
<t'-> On reprend, c'est aussi ça la musique, vous savez, c'est pas que du talent, c'est pas seulement d'être doué, c'est un génie, hein, Michel Legrand, faut bien le dire. Ce matin, j'aurais écouté quelques-unes de ses partitions, pas seulement des musiques de films, hein, on l'a dit évidemment, plus de 200 partitions, vous imaginez ce que c'est de composer 200 partitions
pour le cinéma. Parce qu'on a l'impression avec lui que c'est tellement facile.
Oui, enfin c'est facile
parce dans le journal tout à l'heure.
Il travaille beaucoup, ouais. Il avait appris ça de ses maîtres, notamment Nadia Boulanger, qui était une très grande pédagogue. Il m'avait raconté un jour une histoire incroyable, et il avait dit, alors qu'il commençait à composer, il était tout jeune, il avait pris contact avec ce professeur, hein, et il avait dit, voilà, j'aimerais venir vous montrer ce que je viens d'écrire. Et Nadia Boulanger lui avait dit, mais il n'y a pas de problème, Michel, venez demain à 5h. Et Michel Legrand ajoute, et oui, 5h du matin, pas 17h, parce que Mademoiselle Boulanger, derrière, elle avait des cours. Donc, il avait été formé à bonne école. Je disais qu'il était entré au conservatoire à 9 ans, ça paraît incroyable, ouais. C'est-à-dire qu'il avait à côté de lui quasiment des adultes, lui c'était un gamin, donc génial, mais énorme travailleur, et jusqu'au bout, parce que pour Peau d'Âne, il a réécrit de la musique, je me souviens dans ce studio, il avait le conducteur d'orchestre, il réécoutait les prises, et il était prêt à recommencer s'il fallait, il n'était pas du genre à se contenter de pas grand-chose, Michel Legrand, mais au final, on sait ce que ça lui a valu, à savoir 3 Oscars, mmh. Les Moulins de mon cœur, la célèbre chanson, Un été 42, et puis Yentel.
Eh bien, on va écouter justement...
Les Moulins de mon
cœur. Les Moulins de mon cœur, premier Oscar pour Michel Legrand.
1969.
Voilà, on va se quitter en musique. Merci beaucoup Thierry Geffrotin pour ce très bel hommage. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Thierry Geffrotin, bien sûr, à l'instant, Gwendoline Debono, Jean-Gabriel Bourgeois, Martin Fenot, Victor Delande et Salomé Legrand. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination, Cyril Pascal et Kevin Ousty pour la réalisation. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Et on se quitte donc sur cette terre des Moulins de mon cœur.
Et c'était Fabienne Lemoyle. On vous retrouvera ce soir à 18h aux côtés de Philippe Vandel.